20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, un voyage dans le monde de l'enfance ce soir avec nos invités, les pianistes Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, dont le nouvel album Passage Secret réunit quelques-uns des plus beaux cycles pour piano à quatre mains du répertoire français, évoquant la fantaisie et la tendresse enfantine. Et puis un voyage en Écosse avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix qui nous rejoindra juste après, comme tous les jeudis. Avant cela, jetons un coup d'œil sur l'agenda des concerts en cette mi-février, assez calme sur le plan musical en raison des vacances scolaires. C'est au tour des opéras de Nantes et d'Angers d'accueillir la production de La Chauve-souris de Johann Strauss, présentée en janvier à Rennes, dans la mise en scène pétillante, pleine de fantaisie de Jean Lacornerie. Rendez-vous dès mardi prochain, le 20 février jusqu'au 28 au Théâtre Gralin de Nantes, puis les 10 et 12 mars au Grand Théâtre d'Angers, un spectacle dirigé par Claude Schnitzler avec Stephen Gantz, Éléonore Marguer ou encore Claire de Sévigné dans la distribution. Dans le prolongement de son programme Élite, préparant et accompagnant de jeunes musiciens au début de leur parcours professionnel, l'École normale de musique de Paris organise le festival Élite qui se décline tous les samedis du 3 février jusqu'au 2 mars, salle Cortot. Alors c'est le Quatuor Elmire qui s'y produira ce samedi à 12h30. Le Quatuor Elmire, fondé en 2017, qui s'est révélé au dernier concours de Genève en remportant le second prix ainsi qu'un prix spécial. Il réunit les violonistes David Petrlik et Johan Bracca, l'altiste Hortense Fourier et le violoncelliste Rémi Carlon. Ils joueront Mozart et Beethoven samedi à Cortot, Beethoven avec lequel ils avaient justement séduit le public du concours de Genève en décembre dernier. Quelques notes du 8e quatuor de Beethoven par le quatuor Elmire, capté ici lors de la finale du concours de Genève en décembre dernier. Le quatuor Elmire que vous pourrez applaudir en concert samedi à 12h30, salle Cortot, dans le cadre du festival Élite, salle Cortot, où se produira également dans quelques semaines le duo de piano qui est notre invité ce soir.
Laure Maison sur Radio Classique.
C'est dans le monde de l'enfance que nous allons nous plonger ce soir. L'enfance telle que Bizet, Debussy, Fauré, Ravel et le plus méconnu Louis Aubert l'ont raconté au clavier à travers ce genre si intime du quatre mains et à travers la forme si poétique et narrative de la miniature. Et pour nous raconter ces jeux d'enfants, ces contes, ces histoires pleines de tendresse et de fantaisie, le duo Ludmila Berlinskaya-Arthur Ancel, avec qui nous allons passer un moment ce soir. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Laure.
Bonsoir Laure.
Alors, Passage Secret, c'est le titre de cet album, ce magnifique album, dédié donc à ces musiques de l'enfance qui vient de paraître chez Alpha. Et vous écrivez, Arthur Ancel, dans le livret qui accompagne cet enregistrement, que cette musique serait justement la clé d'un passage secret entre les jeux d'enfants et les jeux d'adultes. Vous pensez à des adultes qui ont gardé une âme d'enfant?
Mais je crois que tous les adultes ont gardé leur âme d'enfant. Il suffit d'aller la chercher, de regarder à l'intérieur de soi-même. Je pense que les compositeurs, là, se sont exprimés avec tout leur génie, justement en puisant dans cette pureté de forme, de fond, liée à l'enfance, pour écrire finalement que des miniatures qui sont des chefs-d'œuvre.
Mais le monde de l'enfance, c'est le monde de la tendresse, mais c'est aussi le monde d'une certaine brutalité. C'est un monde très contrasté, le monde de l'enfance.
C'est très sérieux, en fait, le monde d'enfance. Parce que les enfants, quand ils jouent, et joue au sérieux, et pour de vrai. Et c'est les premières émotions qui, nous tous, on se souvient pour toute la vie après. Je pense que c'est les plus vraies émotions qui existent, et c'est pour ça, nous tous, à mon avis, on cherche toujours de revenir dans ce monde-là. C'est justement, on cherche notre passage secret.
Quel regard, justement, portaient ces différents compositeurs au monde de l'enfance? Il y a forcément une forme de nostalgie lorsqu'ils évoquent l'enfance.
Ce qui est intéressant, si on commence par Georges Bizet, c'est que c'est parmi ses dernières œuvres qu'il écrit. Il se retournait vers justement ce monde magique de l'enfance. Et ça, c'est vraiment hyper bien écrit. C'est très virtuose, c'est très pianistique, et avec énormément de fantaisie.
Il attendait la naissance de son fils.
Exactement.
Tout simplement. Il était loin de se douter qu'il allait mourir très peu de temps après. Et il y a toute une vitalité de création qui s'est naturalisée à travers ces petites pièces et ces images très brèves et extrêmement significatives.
Je pense que aussi, il y a beaucoup de sourires très gentils derrière beaucoup des musiques, inclus de Debussy évidemment aussi. Il y a beaucoup d'humour, mais aussi humour vis-à-vis de nous, les adultes. Et puis c'est la même chose, c'est ce monde magique chez Ravel. Et Louis Aubert, c'est notre découverte, c'est notre chouchou. On adore ce compositeur, on adore ses œuvres et on est très envie de faire découvrir à tout le monde.
Alors, ces pièces qui évoquent le monde de l'enfance, elles ne sont pas forcément destinées à des interprètes enfants, puisque même si certaines peuvent être jouées par des apprentis pianistes, on pense à Mamerlois par exemple, d'autres, et notamment les pièces de Bizet, sont assez virtuoses, Arthur Ancel.
Celle de Bizet, celle de Debussy, celle de Fauré, qui ont été créées par Cortot et Riesler. D'ailleurs, il y a un petit piège dans cet album, puisque par exemple, La Petitude de Debussy, c'est un cycle qu'on attribue naturellement à l'enfance, alors qu'en réalité, il n'est pas du tout d'inspiration enfantine, il est d'inspiration plutôt même badine, voire provocatrice. Et c'est aussi ce qu'on voulait raconter à travers cet album, ce décalage entre une projection qu'on peut faire sur cette musique, qui nous rassure, qui nous emmène dans des territoires intimes et chaleureux, et puis leur réalité dans leur composition et dans ce que les compositeurs peuvent vouloir transmettre et aller chercher chez eux-mêmes.
Thank you.
Quelques-uns des jeux d'enfants de Bizet par Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel. Un extrait de cet album, Passage secret, qui vient de paraître chez Alpha et que l'on évoque ce soir avec ces deux interprètes. On est donc, et vous l'évoquiez tout à l'heure, dans ce genre de la miniature, des petites pièces qui nous font passer d'un univers à l'autre. Vous développez donc votre sens narratif, vous devenez des conteurs. Qu'est-ce que cela représente pour un interprète? Qu'est-ce que cela déclenche dans votre imaginaire, dans votre jeu?
Je crois que dans toute la musique, il faut avoir de l'imagination. C'est ce qu'on répète sans cesse à nos étudiants. Il faut trouver le sens. Il faut comprendre ce qu'on joue, pourquoi on le joue. Et ça doit être toujours, toujours vivant. Là, en l'occurrence, on a la chance d'avoir des pièces qui sont d'emblée elles-mêmes narratives, et avec des procédés d'écriture aussi très narratifs, que ce soit le pas espagnol de Fauré avec ses tararam, on entend pratiquement les castagnettes, ou le balancement de la balançoire, l'escarpolette chez Bizet. Ça veut dire que on doit oublier complètement qu'on est pianiste, oublier tous les procédés techniques qu'on a appris pour juste transcrire l'image. Et c'est ça qui est le plus intéressant dans cette musique, et pour nous en tant qu'interprètes.
Il y a beaucoup de pièces qui évoquent le monde de l'enfance dans le répertoire pour piano à quatre mains. C'est parce que c'est un répertoire qui souvent est lié à la famille,
qu'on partage,
exactement. Ouais.
Évidemment. En fait, c'est pour le plaisir de partager le plaisir. Mais il faut dire que aussi chez les grands comme Schumann, comme Tchaïkovski et beaucoup d'autres, il y a aussi des pièces pas seulement à quatre mains, mais pour piano solo, qui c'est des chefs-d'œuvre absolus écrits justement comme les albums pour les enfants. Donc c'est encore une fois pas par hasard que les grands compositeurs reviennent toujours sur ce thème-là. On revient encore au Passage secret.
Ouais. Et puis il y a certaines pièces chez Tchaïkovski et chez d'autres, notamment chez Ravel, qui s'adresse directement à des enfants interprètes. Donc, je pense donc à Ma Merloi, qui a été créée par deux enfants, de tout jeunes pianistes. Qu'est-ce que cela change au point de vue de l'écriture, de l'interprétation, d'être face à des partitions qui ont été pensées pour des enfants
Je pense que ça ne change rien. On doit, nous, en tant que interprète, on doit le prendre au sérieux. Et au contraire, donner encore plus de tout, de chaque intention dans chaque note.
Il faut être absolument vrai, ça c'est sûr. Parce que on dit toujours que Mozart se fait jouer par les enfants beaucoup mieux que par les adultes. Mais c'est juste parce que il faut croire à 200% à tout ce que tu fais. Et il faut donner toute ton âme, tout ton cœur, toute possibilité humaine quand tu joues cette musique. Donc il faut
penser.
Il
y a un côté pur et spontané en
exactement.
Même temps.
Exactement. Ouais.
D'ailleurs, dans Ma Merloi, c'est particulièrement difficile parce que c'est un peu entre les deux. D'ailleurs, l'histoire de cette création, elle est assez méconnue puisque cette pièce est écrite pour Mimi et Jean Godebski, donc les enfants de ces grands amis de Ravel, mais qui avaient 6 et 10 ans à l'époque. Et qui devait en faire la création Salgavo. Mimi était paralysée par le trac, elle n'a pas osé, donc il a fallu trouver des pianistes pour remplacer. Et c'est vrai que...
Mais j'étais pas très âgée, qui avait 11 et 14 ans.
11 et 14 ans.
Jeanne Leleu,
évidemment, ouais. Dont on parle beaucoup en ce moment, et tant mieux, et Geneviève Duroni. Mais parce que ce sont quand même des pièces exigeantes, techniquement. Et
pas si facile.
Pas du tout, parce que pour être simple, dans ces entrelacs, dans ces tierces, avec toutes ces images de pédales, trouver cette spontanéité, ce naturel est finalement redoutable.
Alors dans cet album, votre nouvel album, Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel, on trouve des cycles célèbres de Bizet, Debussy, Fauré et Ravel, des pièces que l'on connaît bien. Puis il y a cette découverte, ces pièces de Louis Aubert, un compositeur assez méconnu, voire totalement méconnu. Alors on découvre en lisant toujours ce texte passionnant qui accompagne l'enregistrement, qu'il est le dédicataire des valses nobles et sentimentales. Absolument. De Ravel, donc un proche de Ravel. Qu'est-ce que vous avez découvert sur Louis Aubert et comment avez-vous eu envie de jouer sa musique, ses pièces?
Mais à vrai dire, on a découvert Louis Aubert déjà un petit peu quelques années avant, parce que on a déjà enregistré un cycle de Louis Aubert à deux pianos. Et puis, c'est vrai qu'ils ont été très amis avec Ravel. On adore ce compositeur.
On est tombé sur ce cycle totalement par hasard, à vrai dire. Comme feuille d'image, comme ça nous arrive très souvent. Comme ça nous était arrivé d'ailleurs pour la suite brève pour deux pianos, en fouinant dans les magasins de partitions et en prenant ce qui nous attire. Et on a découvert ensuite que ce cycle avait été orchestré par Louis Aubert lui-même. J'avoue avoir envoyé la partition d'orchestre à plusieurs chefs en leur disant « mais il faut jouer ça, il faut
c'est
mettre ça au programme de concert ».
C'est
incroyable, incroyable.
Un extrait du cycle Feuilles d'images de Louis Aubert, interprété par Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel. Un extrait de cet album qui vient de paraître chez Alpha, Passage Secret. Et nous passons un moment ce soir justement avec ces deux interprètes. Un album qui vient de paraître chez Alpha, c'est un nouveau label pour vous?
Oui, c'est notre premier disque. D'ailleurs, le premier disque pour nous à quatre mains, parce que tout ce qu'on a enregistré
c'est
avant,
vrai,
c'était
oui.
à deux pianos. Commencer comme ça avec Alpha, c'est un très grand bonheur pour nous.
Alors ce programme, vous le donnerez en concert le 22 mars à la Salle Cortot, dans un lieu, dans une institution que vous connaissez bien, puisque vous y avez créé la première classe dédiée au duo de piano. Vous êtes également à l'initiative d'une académie de duo de piano dans le prolongement de votre festival de Rungis. C'est un genre qui nécessite de développer quelle qualité particulière le duo de piano, parce que c'est différent de tout autre duo. C'est un duo avec deux instruments identiques.
Vous avez deux heures devant vous pour un colloque.
On va faire un résumé.
En fait, duo de piano, c'est un genre de musique de chambre à part et qui nécessite de réapprendre plein de choses, de réapprendre à toucher le piano, réapprendre à écouter, réapprendre à mettre la pédale, etc. On prend souvent le même exemple avec Ludmila, c'est celui du quatuor à cordes. Aujourd'hui, il ne viendrait pas à l'idée à un programmateur sérieux de ramasser quatre musiciens et leur dire la semaine prochaine, vous me ferez un quatuor de Beethoven. Aujourd'hui, les pianistes croient encore qu'ils peuvent monter un programme de deux pianos rapidement pour une fois. Oui, c'est possible techniquement, mais en réalité, pour réussir à trouver une respiration commune, un son commun, une osmose, c'est tout un travail dont on essaie de faire la propagande, en quelque sorte, à travers ce festival, cette académie, et maintenant, grâce à l'École Normale de Musique de Paris, cette classe dédiée, où nous avons déjà quatre magnifiques duos.
Alors, vous évoquiez le monde du quatuor à cordes, c'est intéressant parce que le quatuor à cordes, c'est l'idée de créer un son unifié à partir de quatre instruments, à la différence, par exemple, d'un trio ou d'une sonate. Est-ce que, justement, avec deux pianos, deux mêmes instruments, on gomme toute individualité pour penser uniquement à un son commun ou il y a une part d'individualité?
En tout cas, c'est pas par hasard que on place plutôt les deux pianos face en face,
hein? Tête bêche.
Tête bêche. parce que en ouvrant le couvercle d'un piano et enlever l'autre couvercle, ça donne cette possibilité de mélanger le son de deux instruments. Et après, évidemment, comme dans toutes les musiques de chambre, comme dans les quatuors à cordes, évidemment, on attend toute la polyphonie, ce qui est génial absolument, parce que les deux pianos, c'est quand même deux fois plus qu'un seul. Et puis, en même temps, ça nous donne, comme disait Arthur, créer cette osmose avec les deux instruments. Parfois, les instruments sont pas pareils, et ça, c'est très difficile pour les pianistes de se faire se marier avec les sonorités, avec les pédales, avec...
C'est quelque chose qui s'apprend aussi.
Aussi, il faut apprendre ça, évidemment. Ouais.
Mais d'ailleurs, les meilleurs quatuors à cordes sont des quatuors dotés de quatre très fortes personnalités, de quatre grands instrumentistes, mais qui réussissent à marier leur personnalité autour d'une vision commune. Et un grand duo de piano, c'est ça aussi. Les grands, grands duos du XXe siècle, c'est d'abord deux pianistes exceptionnels et au service d'une seule vision de l'œuvre.
Voilà, c'est ce que vous apprenez à vos élèves. Et vos élèves, on pourra les entendre le 28 avril, salle Cortot. Ce sera le concert de clôture de l'académie que vous avez initié dans le cadre du Festival de Rungis. Et puis, vous allez auditionner dans quelques jours également plusieurs duos pour en sélectionner un qui participera à la prochaine édition du Festival.
Oui, plus que ça, les duos qui sont suivis dans l'académie sont invités à jouer au Festival. Ça fait partie de notre mission. Mais parmi tous les duos de cette académie, de cette année et de l'année dernière, on en sélectionnera un qui jouera un concert exceptionnel avec l'Orchestre National de Lille.
Au Théâtre des
Champs-Élysées, oui.
Voilà. Le 3 octobre.
Voilà, pour la prochaine édition du Festival de Rungis. Et puis, un prochain enregistrement à venir pour le duo Ludmila Berlunskaya-Arthur Ancel. Un enregistrement de concerto cette fois-ci. Quel en sera le programme ?
Que des choses nouvelles avec Alpha.
Donc c'est deux concertos avec orchestre, justement. Un qui on a déjà joué une fois à notre festival Piano Piano. C'est concerto de numéro 2 de Victor Babin, magnifique compositeur et aussi le pianiste dans les plus grands duos du XXe siècle, Babin-Vronsky. Et puis, deuxième concerto, c'est Découverte.
En création française, en tout cas, puisque ce concerto a été créé en 1943, d'une compositrice américaine, surnommée la Girl Gershwin, puisqu'elle a été découverte par Paul Whiteman quelques années après la Rhapsody in Blue, qui lui a fait la même commande qu'à Gershwin, sauf qu'elle n'a pas eu, en tant que femme, elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer comme compositrice de musique savante. Elle a toutefois écrit plusieurs œuvres, dont ce double concerto, qu'on se réjouit de faire découvrir au public français et européen notamment.
Voilà, donc ça sera dans quelques mois, l'année prochaine, votre prochain album chez Alpha. On va se quitter avec un compositeur qui aimait la musique de Gershwin, c'est Maurice Ravel, avec un extrait de Ma mère loi. Et on se donne rendez-vous pour profiter de ce magnifique programme Passage secret en concert le 22 mars à Cortot. Merci beaucoup Ludmila Berlinskaya, Arthur Ancel.
Merci beaucoup.
L'envoûtante pavane de la Belle au bois dormant de Ma mère loi de Ravel par le duo Ludmila Berlinskaya-Arthur Ancel. Un nouvel extrait de ce bel album Passage secret sorti chez Alpha.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
On part en Écosse avec vous ce soir.
Sur les routes écossaises avec l'Orchestre Royal d'Écosse dans un programme symphonique et concertant. Et donc nous allons prendre la route de l'une des plus belles et attachantes terres d'Europe, donc cette Écosse, entre le 15, donc entre ce soir et le 17 février, l'Orchestre Royal du pays parcourt la terre écossaise avec 3 soirées successivement à Aberdeen, puis Édimbourg et enfin à Glasgow. Le programme est attrayant et équilibré avec la suite du roi Roger de Chimène, le deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns avec le pianiste Simon Trepchewski, en soliste bien sûr, et enfin de très larges extraits de Roméo et Juliette de Prokofiev. Et l'ensemble des concerts sont placés, est placé, puisque c'est l'ensemble, sous la direction de Thomas Sundergaard, le maestro danois, qui est le directeur musical de l'Orchestre Royal. Et ces concerts itinérants illustrent parfaitement la mission de l'Orchestre d'Écosse, à savoir faire rayonner la musique sur son territoire, l'ensemble de ce territoire est rencontré à l'occasion des publics très divers.
Alors Emmanuel, pouvez-vous nous rappeler l'histoire de cette formation symphonique écossaise ?
Oui, alors c'est une phalange qui est fière de sa riche histoire, puisqu'elle la ramène à plus de 125 ans en arrière, et elle se présente légitimement comme l'une des principales institutions culturelles d'Écosse. Alors on va remonter un petit peu le temps. Elle a été créée en 1891 sous le nom de Scottish Orchestra, puis devenue le Scottish National Orchestra en 1950, et le patronage royal a été obtenu en 1977. Alors, de nombreux chefs d'orchestre de grand renom ont contribué à sa réputation à l'intérieur des frontières, mais aussi à l'extérieur. J'en cite quelques-uns, Georges Zell, Sir John Barbirolli, Némé Hervy, et plus près de nous, le chef français Stéphane Deneuve, qui a été le directeur musical de cet orchestre. Et Thomas Sundergaard, lui, il a été nommé en 2018, après avoir occupé le poste de chef invité principal, donc c'est des musiciens qu'il connaît bien. Outre ses tournées comme celles que nous évoquons ce soir, l'orchestre se produit régulièrement au Festival international d'Édimbourg, la très grande manifestation musicale et théâtrale écossaise, mais également au BBC Proms et puis bien entendu à l'étranger. Alors il interprète aussi régulièrement des pages de répertoire choral, toujours très appréciées dans le monde anglo-saxon, et donc les forces vocales du chœur qui travaillent avec lui se joignent aux musiciens, aux instrumentistes, et ce chœur, il est l'héritier direct de celui qui en 1843 a donné pour la première fois en Écosse, bien sûr, l'intégralité du Messie de Handel, créé en Irlande, comme on le sait, puis faisant Florès en Angleterre, mais en Écosse, c'était donc en 1843. Et en 1978, donc bien après, les voix des adultes, les voix de ces choristes, se sont vues complétées par une seconde formation qu'elle rassemble de jeunes chanteurs, et donc c'est le Youth Chorus qui se produit régulièrement aussi à côté de l'orchestre. Donc on voit, c'est un ensemble musical vraiment très copieux, et une des forces musicales les plus dynamiques au Royaume-Uni, le cœur des jeunes, il compte 400 membres qui sont âgés de 7 à 18 ans. Et la jeunesse des artistes, mais aussi celle du public, c'est une des préoccupations de l'Orchestre d'Écosse, comme de beaucoup d'orchestres au monde, bien sûr. Et ils ont créé un programme Music for Life qui cherche à impliquer les Écossais dans la musique, dans la pratique et l'écoute musicale à travers les étapes clés de leur vie et dès le plus jeune âge. Mais là, on va se quitter en musique avec les musiciens écossais et leur chef Thomas Sundergaard dans la symphonie classique, la première symphonie de Prokofiev.
Le début de la symphonie classique de Prokofiev par l'Orchestre national d'Écosse et son chef Thomas Søndergaard. L'Écosse où vous nous avez emmené cette semaine. Emmanuel, merci beaucoup pour ce voyage.
Je vous en prie.
Et à la semaine prochaine. Merci à Diane Chambriard pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Carole Beffa. Carole Beffa qui nous parlera de Bernard Herrmann, dont il vient de signer une passionnante biographie. Bernard Herrmann, le compositeur d'Hitchcock, mais aussi d'Orson Welles et d'autres grands réalisateurs. Biographie publiée aux éditions Actes Sud. Mais votre soirée se prolonge bien entendu comme tous les soirs en musique avec Francis Drezel. À demain donc.